Voyage de Monsieur Fitzgerald à la recherche des mystères de Léon Gozlan. Les adieux à sa famille.
Ne partez donc pas, mon ami. C'est votre chère Sophia qui vous en supplie, c'est votre fille adorée, votre Nell qui se joint à moi pour vous engager à rester. Ne soyez pas insensible non plus à la prière du vénérable Monsieur Croc, votre meilleur ami. Que vous manque-t-il ici? N'êtes-vous pas riche, heureux, estimé, adoré de tout le monde?
Je sais, répondit avec un flegme qui ne manquait pas de tendresse Monsieur Fitzgerald, que je suis très riche, que vous et votre fille serez très affligés de mon départ, que Monsieur Croc me regrettera beaucoup. Je sais aussi que je suis président de 3 clubs de Londres. Mais tous ces liens, que je brise avec douleur, ne sont pas assez puissants pour m'empêcher d'accomplir ma résolution. Une résolution mûrie en silence, calculée avec sang-froid.
Dites avec dureté,
milady.
Oui, avec dureté, n'est-ce pas, Monsieur Croc? Si vous alliez recueillir un héritage, même en Californie, réclamer une créance, fût-ce à Pékin, sauver la vie à quelqu'un de vos semblables, je me tairais. J'accepterais le délai infini que vous prenez pour faire ce voyage. Mais vous nous faites un mystère.
À ce mot de mystère, M. Fitzgerald pâlit, trembla et tressaillit. Sa femme reprit.
Mais vous nous faites un mystère du motif, sans doute périlleusement exceptionnel, de votre départ pour un pays que vous ne nommez pas. N'est-ce pas nous dire que vous craignez de ne plus revenir au milieu de votre famille?
Je n'ai pas nié ce péril, répliqua M. Fitzgerald. Mais en honnête homme, j'ai pris toutes mes précautions pour que vous ne veniez à manquer de rien. Si le sort veut que je ne vous serre plus dans mes bras, vous, ainsi que ma chère et blonde Nell, et mon honorable ami et associé M. Croc.
Je n'approuve pas ce voyage,
dit à son tour M. Croc.
Bien que la prudence de M. Fitzgerald me soit un garant de l'intérêt qu'il porte à sa famille, le Saint Livre dit, si tu es sage, tu n'iras pas voir fumer le toit de l'étranger, et tu ne baigneras tes pieds que dans ton fleuve.
Je vous jure, mon cher M. Croc, s'écria M. Fitzgerald, que j'ai assez vu fumer les cheminées de Londres et couler l'eau de la Tamise pour ne pas me déranger afin de voir d'autres fumées et d'autres eaux. Je cours après une satisfaction plus grande et plus réelle.
En est-il d'autres plus grandes et plus réelles que celle de vivre pour nous qui vivrons pour vous?
Mon cher Monsieur Croc, reprit Fitzgerald, sans s'arrêter aux lamentations répétées de sa femme et de sa fille, le spirituel et le temporel de ma maison vont désormais relever uniquement de vous. Ministre négociant, vous répondez de l'âme et des intérêts des objets qui me sont chers. Quand je reviendrai, si jamais je reviens, je désire trouver mes richesses accrues et la paix de ma maison bien rétablie. Nous attendons, vous le savez, deux vaisseaux de la Jamaïque.
Et notre filature de coton est en voie de prospérité, ajouta le ministre Croc.
Tout est dit, reprit ensuite M. Fitzgerald, en ramenant sur son cœur ému sa femme et sa fille, la blonde Nell, qui pleurait et ne cessait de murmurer.
« Oh mon père, restez, nous vous aimons toujours bien. »
De la main qui ne pressait pas contre lui ces deux êtres chéris, il serrait la main de l'estimable M. Croc, attendri à deux titres, comme associé et comme ami, mais ne versant aucune larme, parce qu'il était ministre de la religion anglicane.
« Adieu » cria-t-on à M. Fitzgerald par le haut de l'escalier. « Adieu !» lui cria-t-on en agitant des mouchoirs par la croisée. « Adieu, adieu » entendit-il, jusqu'à ce qu'il fût au bout de la rue, où il demeurait. Comme il est toujours nuit à Londres, il était naturellement nuit quand M. Fitzgerald s'arrêta à quelques mille pas de sa maison et au milieu d'un carrefour assez désert.
« Commençons !» se dit-il en tirant un portefeuille de sa poche et en sortant de ce portefeuille une vaste enveloppe de lettres. Il ouvrit cette enveloppe immense, semblable aux plis ministériels, et il y glissa une foule de petits carrés d'un papier soyeux et d'un maniement très élastique. Pendant plusieurs minutes, il se livra à cet exercice, sans s'occuper si les gens qui passaient le remarquaient ou non. Sous ses doigts agités, l'enveloppe grossit à vue d'œil et atteignit des dimensions telles qu'il devenait douteux qu'elle pût jamais s'introduire par l'ouverture de la boîte aux lettres vers laquelle se dirigeait M. Fitzgerald. Notre personnage, jugeant en dépit de toutes les hypothèses qu'elle passerait par le trou de la boîte, abattit le coin volant sur les trois coins fixes, prit un petit pain à cacheter bleu dans la poche de son gilet, le mouilla à peine et avec le pouce scella négligemment son pli. Il écrivit au crayon sur cette enveloppe monstre « À M. Fitzgerald ».
Rien que ces mots, un monsieur Fitzgerald.
La maison blonde.
Rien qu'à voir les trois têtes blondes laissées par M. Fitzgerald dans sa maison, on pouvait dire qu'il y avait laissé trois anges. On connaît la beauté des femmes anglaises aussi bien que leur laideur. Rien n'est si beau, rien n'est si laid. Madame Fitzgerald avait, quoique blonde, de fort beaux yeux noirs, et cette particularité empêchait que sa ressemblance avec sa finelle, qui les avait bleus, fût aussi complète qu'on l'aurait désirée. Réellement, on l'aurait désirée, car aussi douce, aussi blanche l'une que l'autre, si la première fût venue à mourir, celle qui serait restée aurait du moins empêché de croire à un tel malheur. La différence d'âge entre la mère, qui avait 33 ans, et la fille, qui en avait 17, était à l'avantage de toutes les deux, par une raison où les mathématiques n'ont rien à voir. On n'aurait voulu ni la mère plus jeune, ni la fille plus âgée. Dans ce qui est beau, rien ne se conçoit différemment, à moins d'être journaliste ou critique de profession. Quel beau blond que le blond de leurs cheveux, quel joli rose que le rose de leurs lèvres, du bord de leurs oreilles et du bord de leurs doigts. C'était charmant. On eût dit une lanterne faite de feuillage rose éclairée par la flamme d'un petit génie. Winterhalter n'eût pas eu assez de ces plus douces teintes pour tant de charme. J'aurais voulu que Diaz eût diapré le tapis où se posaient leurs pieds de reine. Comprend-on qu'un honnête homme, riche comme un roi qui a tout sacrifié pour le bonheur de son peuple, abandonne une femme si belle et une fille aussi belle que sa mère? Quant à M. Croc, le ministre anglican, l'associé et l'ami de M. Fitzgerald, c'était tout ce qu'est un ministre anglais, un homme se livrant au commerce des âmes et du coton, ou bien du fer, du cuivre laminé ou du bois de Campeche. À côté de la Bible, il avait son grand livre et ses prix courants. Depuis 9 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir, il écrivait à ses correspondants de la Jamaïque ou au contremaître de ses manufactures. À 7 heures, après avoir dîné, il passait un habit noir et devenait ministre du Seigneur. Il adoptait alors un teint pâle, un air sombre et un caractère tempérant. Le matin, il fermait les yeux sur la traite des Noirs. Le soir, il l'anathémisait en se gorgeant de thé et en se maçonnant l'estomac de sandwich. Comme négociant, on le disait rigide à l'excès. Point ou peu de pitié pour les ouvriers. Il exigeait d'eux 18 heures de travail par jour. Mais ministre, il faisait de nombreux appels à la bourse d'autrui pour les soulager. M. Fitzgerald affectionnait M. Croc avec l'ardeur d'un ami et d'un néophyte, et on n'a pas d'idée de l'amour et du respect qu'il exigeait que sa famille eût pour lui. M. Croc n'avait guère plus de 32 ans. Sa figure longue, osseuse, mais enlevée au bout du pinceau, offrait une expression de haute intelligence et de finesse, eût-on osé dire en parlant de toute autre personne que d'un ministre de Dieu. L'ensemble de son visage présentait un incontestable caractère de beauté et de beauté choisie. Étonnement de la poste aux lettres. Quoi qu'on ne s'étonne guère dans les administrations anglaises, par les habitudes on y est de vivre au milieu des excentricités les plus violentes, on s'arrêta cependant devant l'énorme lettre qu'avait jetée quelques heures auparavant M. Fitzgerald et qui ne portait pour toute suscription que son nom au crayon M. Fitzgerald. L'employé secondaire l'a soumis à son chef, aussi embarrassé de savoir où l'adresser dans ce vaste univers peuplé de Fitzgerald et particulièrement Londres. Ce chef la porta à un autre chef de division qui, à son tour, ne devinant pas la destination de cette lettre énigmatique, la communiqua au directeur même des postes. Celui-ci était un homme de profonde perspicacité, comme le sont du reste tous les chefs d'emploi en Angleterre. Il posa la lettre dans le plateau d'une balance, après l'avoir examinée dans ses moindres dimensions. Puis il dit avec la pénétration d'Archimède « Telle forme réunie à tel poids, ce sont des billets de banque français. » Il ajouta, pour compléter l'admirable solution de son problème, « Cette lettre renferme 200 000 francs. »« Mais que faut-il en faire ?» demanda le chef de division au directeur. « L'envoyer à son adresse. » »« Mais votre seigneurie oublie que l'adresse n'en est pas une. Elle ne porte ni la désignation d'une rue, ni celle d'un pays, ni celle d'une contrée. » Évidemment, celui qui a mis cette lettre à la poste de Londres, reprit le directeur, a réalisé en monnaie française des valeurs anglaises. Son but est d'aller en France, où cette monnaie a un cours régulier. Il convient donc, monsieur le directeur, de l'adresser en France ? Paris. Un Anglais qui emporte avec lui 200 000 francs n'a pas le projet d'aller ailleurs qu'à Paris. Au surplus, je vais joindre à cette lettre un mot pour le directeur des postes de Paris. Au cas où ce monsieur Fitzgerald ne serait pas retrouvé dans cette ville au bout d'un an, la lettre me sera renvoyée et alors on avisera. Allez, faites ainsi. » La lettre roula vers Paris, et probablement avec 5 ou 6 000 autres lettres portant la même adresse, Fitzgerald, car il existe autant de Fitzgerald que de Lefebvre, de Martin, de Leblanc. Pourquoi un homme riait beaucoup à un bal de l'ambassade anglaise? Cet homme était adossé contre une des portes d'entrée des salons de l'ambassadeur anglais et il écoutait. Chaque fois qu'il entendait proclamer certains noms, il détournait la tête pour sourire tout à son aise. Lui seul avait remarqué qu'on annonçait successivement « le duc et la duchesse de Fitzgerald »,« le comte et la comtesse de Fitzgerald »,« le baron et la baronne de Fitzgerald », »,« monsieur de Fitzgerald, attorney général », »,« monsieur de Fitzgerald, premier gentilhomme de la chambre ». Jusqu'à 50 fois, il entendit dans la soirée ce nom qu'il faisait sourire. 8 jours après, il riait encore de souvenir à sa croisée de l'hôtel de Parme, situé au fond du Gros Caillou, en pensant à la voie lactée de Fitzgerald qui peuplait le ciel de Paris. « Je défie bien les démons et leurs phalanges, disait-il, de distinguer un Fitzgerald logé au Gros Caillou d'un autre Fitzgerald au milieu de tant de Fitzgerald. » Il est temps de dire ce que Fitzgerald était venu faire à Paris. Paris a toujours, et presque chaque mois, une bête curieuse à montrer aux autres nations. Quand ce n'est pas un opéra, c'est un ballet. Quand ce n'est pas une révolution, c'est un grand criminel. Quand ce n'est pas Franklin, c'est Lasner. Nous sommes les grands montreurs de curiosité. Or, depuis quelque temps, M. Fitzgerald n'entendait parler que de mystères qui se passaient à Paris. Ici, homme mystérieux, là, femme mystérieuse, partout, intrigue mystérieuse. Paris prit à ses yeux la forme fantastique d'un gigantesque mystère rempli d'une foule d'autres mystères, plus mystérieux les uns que les autres. Un hôtel garni était un mystère, un café un autre mystère, un marchand de vent un grand mystère, une table d'hôte un bien plus grand mystère. Ouvrait-il un journal? Il n'était question que d'un prodigieux mystère découvert par la police. Jetait-il les yeux sur un feuilleton, il lisait « Mystère de la Bastille, mystère de la conciergerie, mystère de ma femme ». Voulait-il connaître le genre de pièces jouées à Paris, il ne trouvait qu'une seule pièce, la gaieté, mystère, les variétés, mystère, l'ambigu, mystère. Sur un cerveau naturellement excentrique, une telle répétition d'idées et d'images agit avec une force extraordinaire. Et l'excellent M. Fitzgerald comprit qu'il n'y aurait pas de repos pour lui en ce monde tant qu'il ne serait pas allé à Paris prendre un bain entier de mystère. Cette envie n'était pas exempte d'une certaine terreur qui en aggravait la domination. M. Fitzgerald était convaincu qu'on ne sortait pas vivant de tant de mystères, car il voulait les connaître tous par lui-même. Et ceux de la cité, et ceux de l'Arche Marion, et ceux de la Roquette, et ceux des Bagnes, et ceux du Cabanon de Bicêtre. Il résolut donc le voyage de Paris sans faire part à sa femme, dont il connaissait la sensibilité, ni à M. Croc, son digne ami, du désir qu'il brûlait de contenter en osant se rendre dans cette ville. Depuis son arrivée à Paris, depuis 10 jours environ, il se préparait à descendre dans l'enfer des plus noirs mystères, et pour cela il relisait ses notes, courts, rapides, mais énergiques extraits de ses lectures. Tel fut, après les avoir lus, l'itinéraire qu'il dressa. Voir le cabaret de la femme sans tête et y souper. Inviter à dîner Laval Poignard. Aller au bal des demoiselles vampires. Se rendre à minuit dans la forêt de Sénart, au carrefour des Charbonniers Rouges. Coucher à l'hôtel dit de la Guillotine, place de l'Estrapade, etc., etc. Nous avons dit que M. Fitzgerald était à sa croisée de l'hôtel de Parme, se démontrant avec jubilation l'impossibilité donnée à qui que ce fût de savoir ce qu'il était devenu dans les anfractuosités de ce volcan éteint qu'on appelle le monde. Tout à coup, une servante de l'hôtel de Parme l'appela par son nom. « Monsieur Fitzgerald ?»« Ce n'est pas moi, » répondait-il sur le champ. « Comment ce n'est pas vous? Vous n'êtes pas... »« Je suis bien, hein, Fitzgerald, mais il n'est pas vraisemblable que je sois celui que vous cherchez. »« Cependant, le facteur a laissé ici cette grosse lettre pour vous. » L'adresse est un peu effacée parce qu'elle est écrite au crayon.
« Ma lettre !» s'écria avec amertume Fitzgerald.
« Donnez, laissez-moi !»
La servante sortira toute confuse.
« Comment, comment, comment ?» murmura trois fois Fitzgerald. « Je précipite un soir à Londres dans un trou cette lettre difforme,
cette lettre qui pourrait être aussi bien portée en Chine ou au Canada, puisqu'elle est sans désignation de ville.
Je me loge au fond d'un hôtel italien au bout du Gros Caillou à Paris, et cette lettre, pleine de billets de banque, cette lettre qui ne tente l'avidité d'aucun employé, revient tomber dans mes mains ici.
Quelle épouvantable régularité! Quel affreux début dans la voie des mystères!
Mais quel chemin a-t-elle donc suivi cette lettre? »
La réponse à la question de Fitzgerald se lisait sur les 117 indications à l'encre bleue, rouge et noire tracées sur les deux faces de sa lettre. Elle était allée dans tous les grands établissements d'eau thermale qui sont en France, endroits spéciaux où l'on présumait rencontrer un Anglais du nom de Fitzgerald, et l'avait été renvoyée à Paris, tandis qu'on faisait à Paris même d'autres recherches. Enfin, il n'y avait que 10 jours que celui qui portait ce nom résidait dans la capitale, que sa lettre allait le trouver aussi intacte qu'au moment où il l'avait si dérisoirement scellée avec un petit cachet bleu. Une circonstance est à noter. Le directeur des postes de Paris, en s'excusant par un petit billet d'avoir apporté involontairement quelques retards dans la remise de la lettre, engageait M. Fitzgerald à mettre une autre fois un peu plus d'exactitude dans la rédaction de ses adresses.
« Fatalité, » dit encore une fois Fitzgerald. « Voilà une lettre qui a passé entre les mains de 1200 ou 1500 employés anglais et français et qui m'arrive sans qu'un seul des billets de banque que j'y avais glissés soit perdu. »«
Heureusement, » dit-il, « je suis dans la ville des mystères et je prendrai bientôt ma revanche. » On ne trouvera pas étonnant qu'un homme décidé à se nourrir de mystères ne choisit pas pour le lieu de ses promenades le jardin des Tuileries ou celui du Luxembourg. Tous les soirs, et l'on était au milieu de l'hiver, Fitzgerald allait se promener sur le pont d'Iéna, où, passé 9 heures, on ne vous demande pas la bourse ou la vie, mais où l'on vous prend l'une et l'autre sans vous laisser la liberté du choix. Or, le soir du jour où Fitzgerald avait été si cruellement désappointé, il alla, comme la veille, mais par un temps beaucoup plus sombre, se promener sur le pont d'Iéna, disposé enfin à commencer sa fameuse épreuve des mystères. Sa colère contre l'administration des postes avait hâté ce moment. Il avait emporté avec lui les 200 000 francs de billets de banque si merveilleusement revenus. Le pont d'Iéna, à 11 heures, un soir d'hiver. L'endroit n'est pas d'un abord très facile, surtout par la rive gauche. À partir de la chambre des députés cesse, la nuit, toute rencontre d'individus à face honnête. C'est à peine si l'on distingue quelquefois deux invalides, fantômes de la Bérésina, rentrant à leur hôtel ou allant aux Champs-Élysées pour figurer à la grande revue que passe l'empereur mort à l'heure de minuit, ainsi que l'a dit Seydlitz dans sa magnifique ballade. Vous tombez ensuite dans le domaine de l'inconnu. Les brouillards qui s'élèvent constamment de ce plateau sablonneux de la Seine lui donnent la forme d'un chaos traversé par un pont. C'est celui d'Iéna. La vapeur en brise les arches, sous lesquelles il ne passe qu'un murmure triste et des bouffées grises. Au-delà, rien. À droite, rien. À gauche, rien. Des soupçons de lumière, des apparences de bruit, des simulacres de choses dansent et courent sous vos yeux comme les djinns, horribles djinns d'Occident, pâles, frileux, et qui vous dirigent vers un fossé où un assassin vous tue ignominieusement pour 20 sous avec un poignard rouillé, et vous précipite ensuite dans la Seine afin de laver non pas son crime, mais ses mains. Et ceci, tandis qu'au fond de l'horizon opposé, Paris en feu incendie la gaze du brouillard et se fait un dôme rougeâtre pour ciel de lit le grand satrape. Ce roulement sourd et saccadé, qui vous fait croire un instant à la bonne rencontre de quelques charrettes, est une illusion perfide. Cette charrette passe à 2 lieues de là, si toutefois elle passe quelque part. Pour compléter le tableau, un coup de sifflet fend l'air près de vos oreilles et un chien effaré glisse sans aboiement à vos côtés. Que dit ce sifflet? Où va ce chien qui galope dans la brume? Fitzgerald affrontait sans émotion, mais c'est l'émotion qu'il cherchait, ces 1000 harmonies de la solitude, de la tristesse et de la peur, en se dirigeant vers le pont d'Iéna, à la tête duquel il était enfin arrivé. Une lueur brille à 50 pas de là, il s'en approche. Cette lumière vacille à quelques pieds du sol, c'est celle qui rayonne de l'œil voilé d'un cabriolet de place. Un bouillonnement frémit dans les entrailles de Fitzgerald. Cet homme est un assassin ou un complice. Que fait-il là? Pourquoi est-il venu?
Je le saurai.
Qu'attendez-vous là? Dit-il en frappant sur la capote de cuir.
Celui qui voudra me prendre, répond une voix avinée. Le diable lui-même, s'il veut monter dans mon escargot.
Les cheveux de ce cocher étaient rouges et son carrick café au lait. Il portait un carrick, mais un carrick mort depuis longtemps.
Je comprends, je saurai tout, pensa-t-il. Montez. Où allons-nous, mon bourgeois?
Barrière d'Italie. Vous suivrez les boulevards extérieurs.
Rien que cela, mon bourgeois.
C'était bien, en effet, la plus hideuse course qu'à l'heure de minuit put proposer un homme décidé à rentrer chez lui sans tête.
Voyons monter.
Un instant, dit Fitzgerald, qui, s'approchant de la lanterne du cabriolet, ouvrit son portefeuille et se mit à feuilleter un monceau de billets de banque. Le cocher aux cheveux rouges ouvrait des yeux de crocodile. Fitzgerald comptait ainsi à haute voix. 40 000 francs, 60 000 et 20 000, 80 000, plus 20 000 font 100 000, 150 000.
Je suis à vous.
200 000, c'est cela.
Fouettez votre cheval.
Fitzgerald était monté dans le cabriolet, après avoir fermé son portefeuille et l'avoir placé sur ses genoux.
S'il vous était égal, mon bourgeois, nous enfilerions cette ruelle, dit le cocher,
après quelques minutes de course indécise entre la plaine de Grenelle et le Champ de Mars.
« Parfaitement égal. Mais pourquoi cela ne me serait-il pas égal ?»«
C'est que l'assassinat de l'infortuné Clapier a eu lieu dans cette ruelle, il n'y a pas plus d'un mois. »«
Ah, l'on a assassiné dans cette ruelle. »«
Tenez, là, voyez-vous ?» dit le cocher en désignant une borne adossée contre un vieux mur.
« On l'a assommé pour lui voler 55 sous. Ils étaient trois. » Deux charpentiers et un cocher comme moi.
Tu es un homme pour 55 sous.
En effet, c'est pour bien peu de choses,
dit Fitzgerald, qui tenait toujours son portefeuille sur ses genoux.
Les gens de votre état, poursuivit-il, tuent donc quelquefois?
Mais oui.
Quand le travail ne va pas.
Puis il y a des mauvais caractères dans toutes les professions.
Un mauvais caractère, pensa Fitzgerald, qui pensa aussi.
Il ne tient qu'à lui en ce moment d'imiter son confrère et de me tuer. Voyons ce qu'il va faire. Quoique le cabriolet ne roulât plus dans la ruelle, il ne cheminait pas pour cela sur un terrain plus sûr. Il cahotait sur les boulevards extérieurs, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt se cognant contre un arbre ou plongeant une de ses roues dans les fossés latéraux.
Oui, il y a de mauvais caractères dans toutes les professions.
Reprit comme à plaisir le cocher aux cheveux rouges, qui, en disant ces paroles, se tourna de manière à regarder de biais M. Fitzgerald, posture sinistre. Au même instant, le cheval s'arrêta, une main s'était abattue sur les guides.
« Un guet-apens, dit mentalement M. Fitzgerald, je suis perdu. Mon premier mystère sera le dernier. Que Dieu et le vénérable M. Croc veillent sur ma famille. Je ne regrette que de mourir sans avoir pu pénétrer le mystère du pont d'Iéna.
« Vos lanternes sont éteintes, » dit l'homme qui avait arrêté le cabriolet.
« Je vous y mets à l'amende. »«
Faites excuse, » répondit le cocher en répondant à l'homme de la police, car ce n'était que cela.
« Mes lanternes sont toutes deux allumées. L'épaisseur du brouillard vous a fait croire qu'elles ne l'étaient pas. »«
Elles le sont bien peu, si elles le sont, » murmura l'homme de la police en se retirant dans une contre-allée.
« Ce n'est pas encore là le mystère, » pensa Fitzgerald, « mais je ne l'échapperai pas cette nuit. »
Au bout d'un temps de silence, le cocher lui demanda
« Nous voici bientôt arrivés à la barrière d'Italie. Où faudra-t-il vous descendre, mon bourgeois ?»«
Dans la campagne. »
« Oui, mon bourgeois. Faudra-t-il vous attendre ?»«
Non. » « Vous ne rentrerez donc pas à Paris cette nuit ?» Fitzgerald ne répondit pas. De propos en propos interrompus, on atteignit l'endroit à peu près indiqué par la volonté mal formulée de Fitzgerald.
« Là, n'est-ce pas, mon bourgeois ?»«
Oui, là. » Fitzgerald donna 5 francs au cocher, sauta à terre et disparut en laissant son portefeuille sur la banquette du cabriolet. Il ne rentra qu'à 3 heures du matin chez lui, à son hôtel de Parme, au Gros Caillou, et en se disant « Ma nuit n'est pas perdue,
quoiqu'elle eût pu être meilleure. Ce cocher va dépenser mon argent. Il sera soupçonné de vol, d'assassinat. Il niera, on le mettra en prison. Et j'apprendrai par le procès ce qu'il faisait sur le pont d'Iéna à 11 heures du soir. On ne saurait payer trop cher un pareil mystère.
Le thé et la lettre anonyme.
Huit bonnes heures de sommeil remirent M. Fitzgerald des fatigues de la nuit et raffermirent son intention héroïque de ne pas quitter Paris sans avoir pris corps à corps les principaux mystères qui s'agitent dans son enceinte.
« Au Moyen-Âge, disait-il en se versant du thé, j'aurais été curieux d'alchimie. Au XIXe siècle, je suis friand de mystères. Jadis, j'aurais dépensé mon or pour trouver le moyen de n'en pas faire. Aujourd'hui, je risque quelques 100 000 francs pour jouir de la pleine connaissance des mystères que je suis bien plus sûr de me procurer ici, à Paris, devenue la capitale des mystères. Mystère-ville. »
Monsieur Fitzgerald comptait donc beaucoup sur le portefeuille oublié dans le cabriolet pour apprendre l'histoire du cocher du pont d'Iéna. Et il combinait, en attendant ce résultat certain, d'autres mystères, plus noirs, plus terribles, lorsque la servante de l'hôtel de Parme déposa sur son service à thé une lettre de Londres.
De Londres ?
Et encore à M. Fitzgerald.
« Au fait, dit-il, puisqu'on m'a découvert une fois, on peut me découvrir une seconde.
Mais qui donc m'écrit ? Ce n'est là l'écriture de personne de ma famille. » La lettre de Londres fut décachetée, il courut à la signature, point.
Une lettre anonyme. Lisons-la.
« Monsieur, les apparences sont souvent bien trompeuses. Banalité, mais vérité. Ceux en qui nous plaçons notre confiance n'attendent qu'une occasion pour nous trahir. Vous êtes un exemple. Je suis douloureusement peiné de vous l'apprendre, de ces déplorables abus de loyauté qui font gémir l'humanité et la noble philosophie. Ce monsieur Croc, recueilli chez vous, devenu votre associé, le conseiller de votre famille, vous trompe indignement.
« Cela n'est pas, oh, cela n'est pas !» s'écria M. Fitzgerald.
« Poursuivons. Abusant de votre absence et de son influence sur le caractère si bon et si doux de votre femme, il a osé, depuis votre départ, déshonorer votre nom.
« M. Croc, lui, un ministre du Seigneur ? Oh, l'infâme calomnie !»
Vous crierez sans doute à l'infamie en parcourant ces lignes anonymes. Elles n'en resteront pas moins comme une vérité. Au lieu de demeurer éloigné de Londres, vous feriez sagement, Monsieur Fitzgerald, de revenir, de voir par vos yeux le tort qu'un pareil homme est en train de porter à votre sanctuaire domestique, et d'essayer de réparer un mal déjà peut-être irréparable.
Vous savez, agissez.
Moi, croire à une pareille invention, non. Je connais ma Sophia, je connais mon noble ami M. Croc. Moi, partir, ce serait trop honorer la calomnie. Je resterai. Ne pensons plus à cet odieux mensonge. »
Il jeta avec indignation la lettre anonyme au feu.
Il sonna ensuite pour qu'on desservît.
« Un homme désire vous parler.
Moi ?
Une espèce de cocher.
Un cocher ?
Tenez, monsieur, le voilà. »
« Grand Dieu ! S'écria Fitzgerald, l'homme aux cheveux rouges, mon cocher de la nuit dernière.
Vous, ici ?
Oui, mon aimable bourgeois. Je vous ai suivi, rattrapé, après avoir diablement pataugé dans la boue des champs.
Allez.
Que me voulez-vous ? Pourquoi ? Je dois d'abord vous apprendre, mon bourgeois, que je suis médaillé de première classe depuis 5 ans, pour avoir apporté à domicile et à diverses fois 39 parapluies, 12 socques articulées et 17 sacs d'argent oubliés dans mon cabriolet. Ayant senti quelque chose sous la main cette nuit, après que vous m'avez eu quitté, ayant vu que c'était un portefeuille, je me suis lancé à votre poursuite. Et assez heureux pour vous rejoindre, j'ai pris le nom de votre rue et le numéro de votre hôtel. Je vous rapporte votre portefeuille.
Ouvrez-le, voyez s'il ne manque rien, mon bourgeois.
Mon portefeuille ? Ah, dame, c'est qu'Antoine Mouron est honnête.
À telles anciennes qu'on m'a mis en enseigne. C'est moi qui suis le cocher fidèle en carrique café au lait qu'on voit sur les enseignes des principaux marchands de vin de Paris et de la banlieue.
Mais examinez, assurez-vous qu'il ne manque rien.
« Mais que faisiez-vous, malheureux, cette nuit sur le pont d'Iéna à l'heure des mystères ?»«
Je tendais des lignes pour pêcher, comme c'est défendu. »«
Vous pêchiez ?»«
Oui, mon bourgeois, des ablettes et des poissons blancs. » »«
Moi qui voyais en lui l'instrument d'un mystère. »«
Allons, que vous faut-il en récompense ?»«
Rien, mon bourgeois. »«
Rien, rien. Mettez sur ce livret seulement que je vous ai rapporté votre portefeuille. Je montrerai votre attestation à la police, et dans un an, elle me donnera 6 francs, si elle s'en souvient. »
Malgré son profond découragement, Fitzgerald serra la main au trop honnête cocher en lui disant
« Very well, my dear friend, my dear fellow, very well. »
Antoine Mouron était déjà dans la rue.
Il fallut 15 jours à M. Fitzgerald pour se relever de l'étourdissement de cette première déception qui, du reste, on en conviendra, ne tirait pas à conséquence. Un mystère perdu, 10 de retrouver dans une ville comme Paris.
Le souper chez la femme sans tête. Mais après ces 15 jours écoulés, notre voyageur s'asseyait vers 9 heures du soir, car c'est le soir que les mystères préfèrent se produire, à une table du cabaret de la femme sans tête, hors de la barrière des Trois Couronnes. Ses études, ses nombreuses recherches, les livres les plus renommés pour leur spécialité, quelques renseignements d'un caractère précis, lui avaient recommandé ce rendez-vous extramuros comme le plus malfamé du genre. Gens dégradés, repas épouvantables, jeux cyniques, tout, disait-on, s'y trouvait réuni pour l'édification des amateurs. La police plongeait de loin en loin sa fourche dans cette mare et en retirait des monstres du premier ordre qu'elle étalait ensuite sur les bancs des cours d'assises au grand frémissement des deux sexes. Déguisé en maçon, de peur d'être un trouble-fête ou un sujet de distraction pour les habitués de l'antre, M. Fitzgerald avait pris place à un coin de la table où le souper allait être servi. La physionomie des convives ne démentait pas les belles prévisions de notre étranger avide de mystère. Ils avaient tous les bras nus et sur leur chair accidentée de grappes de muscles, de nerfs gros comme des cordes et sillonnés de veines bleues, s'épanouissaient des tatouages étranges. Leurs mœurs et ses dessins, faits avec le sang à la pointe du poignard, offraient de bizarres contrastes. Ces dessins représentaient des cœurs enflammés, des bouquets de fleurs, des corbeilles de fruits, des petits oiseaux, des chiens portant à la bouche ces mots, emblèmes de fidélité, ou bien « à toi, mon ami ».
C'est bien cela, pensait M. Fitzgerald, l'hommage involontaire rendu même par des scélérats à la nature, à l'amour et à l'amitié.
On apporta le souper. Quel souper ! C'était des cervelles à la poulette, des cervelles frites et des cervelles au jus. Qui sait à qui elles ont appartenu, pensait l'héroïque Fitzgerald. Après les cervelles, on apporta du foie de veau piqué et encore du foie de veau à la milanaise.
Ils sont bien gros, ces foies, pour n'appartenir qu'à des veaux, dit en lui-même l'étranger.
Cependant, il en mangea, pour ne pas rester inoccupé et pour écouter sans affectation la conversation de ses bras nus.
Comme il écoutait.
Ils parlèrent de la maladie du raisin, de la cherté du blé, des élections académiques, et particulièrement de la dernière loi sur les sucres.
« Je ne suis pas dupe de ces ruses-là, » pensa Fitzgerald. « Tout à l'heure, ils s'épancheront. »
C'est au milieu de ces réflexions qu'il entendit en portant son attention plus loin, ou plutôt plus bas, car c'est sous ses pieds qu'était le bruit, qu'il entendit, disons-nous, verser comme un épais liquide et faire un grand bruit de déchargement.
« Ah ah !» se dit-il, la besogne souterraine commence, attention.
En effet, il vit bientôt s'esquiver 2 à 2, 3 à 3, les convives du cabaret de la femme sans tête, la chandelle décroître et l'aiguille du coucou approcher de minuit. Où allaient ces hommes ?
Se coucher ?
Se coucher ! Il devint évident pour M. Fitzgerald qu'il ne sortait par la porte du fond que pour descendre secrètement dans ce caveau dont il y avait une des entrées sous les pieds, et où il entendait toujours et de plus en plus murmurer un liquide et rouler quelque chose de sec. Autre conviction effrayante, une odeur nauséabonde, un gaz de boucherie monta à son odorat. On égorgeait sous lui, on tuait. Ces hommes étaient des assassins. Et pas d'erreur, de confusion possible, ce n'était pas là des bouchers. Enfin, resté seul avec la fille du cabaret, déjà sur le seuil de la porte pour la fermer, il alla à elle et lui dit
« Voilà 1000 francs en or. »«
1000 francs ? Ne perdons pas notre temps, ils sont à vous, si vous voulez me laisser passer la nuit ici. »«
Ici ? Voulez-vous ?
Je veux bien. »« Fermez donc votre porte doucement, laissez-moi la clé pour sortir quand je le jugerai à propos et allez-vous-en ensuite. » La servante, après avoir fermé la porte du cabaret, sortira en laissant Fitzgerald dans la pièce qui se trouva plongée dans l'obscurité la plus complète. La rumeur souterraine continuant, M. Fitzgerald éloigna sans bruit la table dont les pieds posaient, et ce n'était pas sans intention, sur la porte du caveau. Il glissa ses doigts dans l'anneau d'un des deux battants de cette porte, et en tirant à lui, il produisit un entre-bâillement qu'il maintint au moyen d'un bouchon de liège. Par cette ouverture, il vit, à la rouge lueur de deux ou trois chandelles, tous les hommes avec lesquels il avait soupé. Horrible occupation, il remplissait des cuves de sang et mettait des os en monceaux réguliers. Chacun contribuait diversement à cette œuvre nocturne. Celui-ci apportait le sang dans un double paquet, celui-là le recevait et le versait dans une cuve. Un autre le vidait dans une rigole de pierre, par où il s'écoulait sous la terre. De temps en temps, il buvait de grands verres de vin, assis sur ses tas d'ossements. « Si ce n'est pas là un mystère, réfléchit Fitzgerald, quel nom lui donner ? Il y a donc à Paris des endroits où l'on assassine les gens et où l'on cache si bien le crime que le sang est versé dans la terre et que les os sont détachés avec une adresse de chacal. » Pendant 5 heures, Fitzgerald voulait repaître ses yeux de cet affreux spectacle. Quand il le quitta, il était sans doute révolté, mais il n'était pas fâché au fond d'avoir pris sur le fait un de ces mystères qu'il était venu chercher si loin et au prix de tant de sacrifices. Il eut 8 jours de bonheur, 8 jours qu'il employa à réfléchir sur les événements de cette nuit passée au cabaret de la femme sans tête et à se préparer à l'initiation d'autres mystères non moins émouvants. Il alla donner de nouveau carrière à ses projets lorsqu'il reçut une lettre de Londres et toujours de la même main anonyme. Sans doute, pensa-t-il, c'est une rétractation de la personne qui a si déloyalement essayé de ternir la réputation de ma femme et de mon honorable ami M. Croc. Lisons. Monsieur, il est regrettable que vous n'ayez pas tenu compte de l'avertissement que je vous donnais il y a un mois. Vous n'auriez pas à pleurer maintenant sur un malheur plus grand encore. L'infâme M. Croc, non content d'avoir fait une tâche indélébile à votre dignité conjugale, vient, pleurez, malheureux père, vient, dis-je, d'entraîner votre fille, votre chère Nell, dans l'abîme de la séduction. Votre fille a disparu. Les uns prétendent qu'elle est passée sur le continent, d'autres qu'elle est cachée. Ce qui est plus vraisemblable, dans une maison de campagne aux environs de Londres. Je sais la blessure que cette nouvelle ouvrira, dans votre cœur déjà si douloureusement affecté. Mais vous la cachez, n'eût pas remédié au mal. Hâtez-vous donc de revenir à Londres, non pour sauver l'honneur de votre famille, mais pour empêcher sa honte de devenir publique. Cette fois du moins, vous ne resterez pas sourd à la voix qui vous parle et qui vous appelle. Pas plus cette fois que l'autre, dit Fitzgerald. « Je n'ai pas cru il y a un mois, je ne croirais pas maintenant. Ce serait une faiblesse de changer d'avis sur ce point. Chère Sophia, chère petite Nell, excellent Monsieur Croc, vous ne vous doutez pas de la trahison dont vous êtes les victimes. Heureusement, et Dieu en soit béni, que toutes ces mauvaises semences de calomnie tombent sur un roc. » Il jeta le second écrit anonyme au feu. Autre mystère de l'hôtel de la guillotine. Persévérant, âpre dans ses infatigables recherches, ivre de son prodigieux succès à la barrière des Trois Couronnes, M. Fitzgerald résolut de passer tout de suite aux plus hautes, aux plus épineuses difficultés de son nouveau genre de tourisme. Une raison non moins puissante, et que nous allons dire plus bas, le décida à prendre cette détermination. Il remit donc à plus tard son entrevue avec le fameux Abal Poignard, sa soirée dansante chez les demoiselles vampires et sa promenade dans la forêt de Sénart au carrefour des Charbonniers Rouges, pour se consacrer tout entier à la terrible nuit qu'il s'était promis de passer dans l'hôtel de la Guillotine, place de l'Estrapade. C'était là le diamant des mystères. L'hôtel de la Guillotine n'ouvrait sa porte qu'à minuit, si l'on peut appeler porte une gueule de pierre percée dans un mur qui sue le meurtre. L'intérieur répond au visage. Des marches tortues, noire, convulsive, édentée, conduisant çà et là à des pièces qui s'abîment dans d'autres pièces tantôt basses, tantôt longues comme des boyaux, partout obscures et pleines de recoins sinistres. Bâtie sur d'anciens terrains de Paris, la maison a 3 caves, et la dernière communique avec les catacombes, c'est-à-dire avec une autre ville aussi vaste, aussi peuplée que Paris, mais une ville dont les rues sont faites de tibias, les carrefours de milliers de crânes, les maisons de fémurs et d'omoplates. Quand on colle l'oreille sur le plancher de la dernière cave, on entend craquer tous ces ossements qui semblent se retourner pour prendre une pause un peu moins fatigante. C'est par ces caves et ces souterrains funèbres que s'échappent les grands coupables traqués par la police. Bien tels, on les suspend vite à une corde et on les descend. Puis ils marchent à tâtons pendant 2 lieues, jusqu'à ce qu'ils trouvent une issue dans les terrains à plâtre de Gentilly. Quelques-uns se perdent ou périssent sous les éboulements produits par le déplacement de l'air. Ils meurent étouffés sous une montagne de squelettes. Dans cette maison que la police connaît et laisse debout, parce qu'au besoin, elle y déniche de temps en temps des oiseaux de proie, on se partage les butins et on médite les grands coups de filet, les belles pêches dans quelques bassins pleins d'or. Il s'y trouve des femmes, beaucoup de jeunes femmes, quelques-unes fort belles, toutes marquées au cœur par le fer chaud du remords ou de la jalousie. Des passions sans nom les attirent vers cette caverne où elles s'abandonnent à des joies inouïes avec les Apollons du bagne et les Antinouses de la guillotine. Là, le plus doux baiser est une morsure. Les hyènes auraient peur et les lionnes rougiraient de ce qu'on fait dans ces ténèbres. J'ai vu cela, pourrait dire un nouveau marquis de Sade, et j'ai publié Justine. La lumière du jour y est inconnue, hommage rendu à la clarté de Dieu. D'affreux luminaires courent de main en main et s'accrochent où il est besoin. La hideuse chandelle écrit sur les murs son passage cynique par de monstrueux dessins qu'enfante l'ivresse de l'eau-de-vie. Ce sont les fresques de Sodome. On loge la nuit dans l'hôtel dit de la guillotine, dont le véritable nom est l'hôtel des trois petits amours. Vous entrez et l'on vous dit « C'est 2 sous pour les draps, 1 sou pour chaque matelas, 2 liards pour la paillasse. Monsieur veut-il être seul ?» Celle qui vous adresse ces questions est une femme grasse et réjouie, ayant une chaîne d'or au cou, 6 bagues au doigt. Elle s'appelle ordinairement Madame Palamède ou Mademoiselle Clovis. Les habitués la saluent sous le nom de la mère Grinchard. Tels sont les renseignements et telles sont les peintures dont M. Fitzgerald s'était enrichi l'esprit avant de descendre dans cet enfer et d'y coucher une nuit, afin de connaître le mystère des mystères, le Jéhovah des mystères. Il écrivit son testament, qu'il adressa sous pli à son ambassadeur, mit en ordre les affaires de son âme, et il partit un beau soir vers minuit pour se rendre à l'hôtel de la guillotine. Il avait le déguisement qu'il portait le jour où il assista à l'affreuse scène de la barrière des Trois Couronnes, un costume de maçon. La demi de minuit sonnait à Saint-Étienne-du-Mont lorsqu'il passa sous la porte de l'antre de l'estrapade, éprouvant, car il était brave, la crainte qu'il convient d'avoir et de vaincre pour prétendre au courage. La mère Grinchard, après lui avoir fait les questions d'usage, lui remit un flambeau oxydé et le poussa dans un labyrinthe de cellules pavoisées de sales rideaux. « Cherchez votre vie, lui dit-elle, et dormez bien. Bonsoir. » Il est temps de dire le motif particulier qui conduisait dans cet hôtel, un peu plus tôt qu'il ne l'avait arrêté dans sa tête, cet effréné amateur de mystères. Depuis 2 mois, la police cherchait Pullman, ce criminel d'une si belle eau. Il savait, sur des indices certains, qu'il se cachait à Paris, dans une de ces tanières qu'annonce à l'extérieur une lanterne rouge, enfin dans quelques bouges comme l'hôtel de la guillotine. Dans l'espoir qu'il se rencontrerait avec Pullman sous ce toit redoutable, Fitzgerald avait hâté sa résolution. À 1 heure, il était étendu dans le cercueil de sapin où les voleurs font semblant de dormir. Il entendit sonner 2 heures, et puis tout bruit mourir dans la rue Saint-Jacques. Quel prélude au mystère ! La nuit, les catacombes béantes sous ses pieds, et sur sa tête, des scélérats en méditation. Mais toutes ces choses se résolvaient en un silence épais et lourd. Tout à coup, et à peine 2h30 venaient de sonner, qu'il entendit ces mots. « Nous sommes trahis, voici la rousse !» La rousse est le nom que les voleurs donnent à la police. Ce cri prit des notes sinistres et indescriptibles dans ses 1000 échos au milieu de la nuit. Les mansardes hurlaient « Voici la rousse !» Le 5e étage et les étages inférieurs murmuraient « Attention, la rousse monte !» Et de la première des 3 caves jusqu'aux entrailles des catacombes, courait, comme les borborygmes d'un homme empoisonné, ce cri « La rousse !» Fitzgerald se pâmait de joie et de terreur. Quel mystère ! Puis tout cessa. La porte se referma avec bruit. Le coupable devait être arrêté. C'est ce que pensait Fitzgerald quand il vit se détacher du fond de sa chambre une ombre armée d'un poignard. Cette ombre devint un homme, et le poignard resta un poignard menaçant, toujours plus près de son cœur. Fitzgerald se dit «
on a crié à la trahison. C'est moi qu'on croit sans doute être le traître. On vient m'assassiner. Que faire ?
Rien. Mourir.
Je mourrai du moins avec mystère. »
Quand le poignard ne fut plus qu'à quelques lignes de sa poitrine, une voix lui dit « Tu es Pullman. Si tu bouges, tu es mort. »
« On me prend pour Pullman ?»
Aussitôt 20 hommes de la police entrèrent et lièrent Fitzgerald, obligé de souffrir en silence les suites de cette erreur épouvantable. Conduit enchaîné à la conciergerie, il fit passer son nom au préfet de police. En attendant le résultat de cette communication, il fut jeté au milieu d'une légion de bandits écrémés pendant la nuit sur la surface de Paris. Le lendemain, à midi, un des chefs de la police le fit venir et lui demanda avec étonnement comment un étranger de son rang se trouvait dans un pareil endroit la nuit. «
Je brûlais de connaître, répondit-il, les mystères dont votre capitale abonde. J'avais lu... »«
Assez, monsieur, dit le chef de la police. Vous n'êtes pas le premier fou, pardonnez-moi l'expression, et vous ne serez pas le dernier. Qu'une crédulité puérile dans cette fantasmagorie ridicule aura séduit et abusé. »
« Comment ? Crédulité puérile ? Fantasmagorie ridicule !
S'écria M. Fitzgerald. « Rien n'est plus réel. En voulez-vous la preuve ?» Alors Fitzgerald raconta tout au long les mystères de la barrière des Trois Couronnes, n'omettant ni les bras nus, ni les ossements, ni les cuves de sang humain. En l'écoutant, le chef de la police souriait.
« Vous avez beau sourire.
Écoutez-moi, monsieur, et désabusez-vous, dit le chef à M. Fitzgerald. Près de ce cabaret, vous n'y avez sans doute pas fait attention, s'élève une raffinerie de sucre. La raffinerie et le cabaret se lient par des travaux couverts, afin que les ouvriers ne perdent pas leur temps à courir chez d'autres débitants de boissons.
Mais les eaux, mais le sang, mais...
Le sang et les eaux servent, tout le monde le sait, à clarifier le sucre. Le sang que vous avez vu provient des bœufs tués à l'abattoir du faubourg Poissonnière. Les eaux sont ramassées dans les rues de Paris par des gens qui vivent de cette industrie. »
Fitzgerald, confondu, atterré, anéanti, baissa la tête.
Le mystère du cocher du pont d'Iéna, sottise. Le mystère du cabaret de la barrière des Trois Couronnes, autre sottise. L'hôtel de la Guillotine, sottise encore, car le chef de la police ne tarda pas à lui apprendre que cette maison, quoique mal famée, n'était pas ce monument de crime et d'abomination qu'il s'était imaginé. Comme cet ancien disait en mourant, « Vertu, tu n'es qu'un nom !» Il s'écria, en prenant congé de la police, « Mystère, tu n'es qu'un nom !» En rentrant chez lui, honteux, fatigué, harassé, déçu, il tomba sur un journal anglais et il lut « La police de Londres a fait, la nuit dernière, une descente à la maison de messieurs Croc et Fitzgerald, négociants associés. Ils sont accusés d'avoir mis eux-mêmes le feu à leur filature de coton après l'avoir fait assurer 10 fois sa valeur. Crime puni par nos lois de la déportation à Botany Bay. Ce qui ne permet pas le doute sur leur culpabilité, c'est le départ depuis longtemps prémédité de M. Fitzgerald et la fuite de M. Croc, lequel avait d'abord corrompu la femme et enlevé la fille de son associé. »
Abominable ! 1000 fois abominable Croc !
S'écria M. Fitzgerald. Puis, revenant tout à coup à la philosophie de son caractère, il dit
« Oui, ah oui, il y a des mystères, mais c'est chez nous qu'il se passe et non chez les autres. Et de tous les criminels, le plus grand, le plus affreux, le plus épouvantable n'est pas celui qui vole sur la lisière d'un bois, qui égorge au milieu d'une forêt ou qui fait son coup dans quelque misérable auberge. C'est celui qui, doux, mielleux, tranquille, vous trompe, vous déshonore les yeux baissés, qui vous vole en gamblant votre femme et séduit votre fille en lui apprenant à psalmodier des cantiques. Tartuffe est encore le plus profond et le plus mystérieux scélérat de la terre. Molière n'est pas encore dépassé. »
Voyage de M. Fitzgerald à la recherche des mystères, de Léon Gozlan.